m'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Elle a des lunettes en forme de cœur rose et toujours le sourire aux lèvres. Elle en a vécu pourtant des peines, des souffrances, des deuils. Et pourtant, elle respire le bonheur. Le bonheur de lire, le bonheur d'écrire, le bonheur de partager des histoires avec les enfants notamment. C'est une des grandes stars de la littérature jeunesse que nous recevons aujourd'hui en duplex des studios de France Bleu Azur à Nice, sa ville d'adoption. Car en plus d'être une écrivaine dont les livres sont traduits dans une dizaine de langues, certains ayant d'ailleurs été adaptés au théâtre ou au cinéma, elle est aussi et peut-être d'abord une exilée. Son autobiographie, elle a choisi de la décliner en 18 chapitres, mais 18 exils, de Suzy Morgenstern, est publiée aux éditions de l'Iconoclaste, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Suzy Morgenstern.
Bonjour.
Quand on ouvre le livre, on tombe sur une série de photos, une photo de classe, celle d'une maison, des photos de famille, de mariage, de couple. Mais avant de les découvrir, il y a deux phrases, deux courtes phrases écrites en gros caractères, deux phrases exclamatives. Quelle vie ? Point d'exclamation. Et vous ajoutez « plus pleine, plus riche, plus drôle qu'un roman », deuxième point d'exclamation. Est-ce que votre vie est une série de points d'exclamation ?
Oui, il se fait que je sois américaine, une vraie Amerloque, et on met des points d'exclamation partout. Je crois que je dis peut-être 25 fois par jour « wow ».
Wow. Donc effectivement, on est très content de vous recevoir, Suzy Morgenstern. Est-ce que vous êtes émerveillée, justement, à travers ce « wow », est-ce que vous êtes émerveillée par la vie, par le monde qui vous entoure ?
Tout le temps. Tout le temps, sans arrêt, et je pense que j'ai vraiment gardé l'enfant en moi, et l'enfance, c'est l'émerveillement, il faut qu'on se bat pour le garder, souvent.
Et pourtant, le mot exil est souvent perçu comme un mot avec une connotation très, très négative, un mot plein de souffrance, un mot plein de regrets. Comment ce mot s'est imposé comme le fil rouge de cette autobiographie ?
Ça a commencé par un stage à Saorge, dans ma région, un stage comment animer un atelier d'écriture. Et c'était avec un écrivain qui s'appelle Virginie Lounoni. Et le premier exercice qu'elle nous a donné, c'était de parler de l'exil. Et tout de suite, j'ai fait une liste de tous mes exils. Et j'ai gardé cette liste pendant longtemps. Et finalement, je pense que l'exil est pour nous tous, même si on reste dans le même pays, dans la même langue, il y a plusieurs exils tous les jours. D'abord, sortir de son lit le matin en hiver, sortir d'enlever la couette, commencer une journée, c'est déjà un exil de la nuit. Et pour moi, c'est très positif, l'exil. C'est le changement, c'est la souplesse de pouvoir accueillir autre chose, ne pas avoir la tête dure.
Il y en a 18 d'exil hein, dans ce livre, Suzy Morgenstern. C'est d'ailleurs le titre, hein, « Mes 18 exils ». Alors, on pourrait penser que 18, ça fait quand même beaucoup. Visiblement, vous en avez peut-être laissé de côté quelques-uns. Pourquoi 18 ?
Mais d'abord, il y avait 28. On a consolidé. Pourquoi 18? 18, j'aime beaucoup le numéro 18 qui, en hébreu, signifie la vie. Chai. Chai, ça veut dire 18 et ça veut dire la vie. Alors, j'aime beaucoup ce numéro. Pourquoi 18? Parce que c'est ce qui m'est venu. Ces 18 qui sont restés, c'était des exils importants pour moi.
Alors, il y a des exils qui sont effectivement assez évidents lorsqu'on lit le livre. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être surprendre un peu plus. Par exemple, être une fille, Suzy Morgenstern, c'est un exil?
Mais c'était un exil par la déception de mes parents. Parce que j'étais la quatrième fille et ils s'attendaient vraiment à avoir un garçon. Et alors, j'étais exilée de leur amour, de leur attente. Je ne l'ai pas ressenti tout de suite. Je pense que même peut-être je ne l'ai jamais ressenti. Parce que ma mère était heureuse avec ses filles.
Oui, et vous-même, vous aimiez être avec vos trois sœurs. Et vous dites que vous n'avez jamais souffert d'être une fille, jamais souffert d'être une femme. Et que vous avez appris la condition féminine, non pas à travers votre vie à vous, mais à travers l'exemple de vos propres filles. Ça, c'est très étonnant pour votre génération.
Plutôt mes petites filles me disent, en lisant le livre, m'ont dit, mais tu n'es pas du tout féministe. Mes petites filles me montrent souvent, regarde, il y a cette injustice et l'autre injustice, des injustices que, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas ressenties. Le harcèlement sexuel, je l'attends depuis toute ma vie et c'est jamais venu. Et mes petites filles ont horreur quand je dis ça. J'ai un t-shirt où c'est écrit « Harcèle-moi, s'il te plaît ». Et elle déteste. D'ailleurs, je me suis débarrassée du t-shirt. Je ne sais pas ce que c'est personnellement dans ma vie, mais je le ressens pour les autres.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Suzy Morgenstern qui publie « Mes 18 exils » aux éditions de l'Iconoclaste. Alors le premier exil, Suzy Morgenstern, c'est évidemment votre naissance à Newark, dans la banlieue de New York. Famille juive, ni riche ni pauvre, ni ouvrière ni bourgeoise, écrivez-vous. Un père qui travaille et qui est plutôt absent. Une mère qui s'occupe de ses filles, une mère très cultivée. Hein, c'est vous le disiez tout à l'heure, la Benjamine. Et vous écrivez « Je ne le savais pas ». Mais nous vivions dans une bulle, on était hermétiquement fermés aux autres, peut-être par peur. Pouvez-vous nous expliquer?
Mais l'Amérique est considérée comme le melting pot. Comment on dit ça en français?
Le melting pot, le mélange, on comprend très bien.
On se mélange pas. Les communautés ne se mélangent pas. Dans mon enfance, les Noirs vivaient entre Noirs, les Irlandais vivaient entre Irlandais, les Hispaniques vivaient entre Hispaniques, et nous, on avait une toute petite communauté juive dans la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Belleville, dans le New Jersey. On se mélangeait pas.
Alors, vous jouez donc avec vos sœurs à la maison, au sein de cette petite bulle, pour reprendre votre expression. Vous adorez partir, et vous le racontez, à la chasse au trésor, dans les vieilleries du grenier. On sent une vraie complicité. Hein. Vous parlez même d'un clan avec vos sœurs. On a l'impression que vous aimiez beaucoup être comme ça entre filles. Pourtant, on a l'impression aussi que vous vous sentiez différente des autres, parce que vous êtes plutôt intello, moins jolie que vos sœurs, c'est ce que vous dites, et même un peu grosse. Vous avez souffert en silence, Suzy Morgenstern?
Un peu beaucoup, mais je n'ai pas conscience d'avoir souffert de ça. J'étais différente, mais ce n'était pas une tare d'être différente. Mes sœurs étaient quand même fières de moi, de mes notes, de mes accomplissements à l'école. Et puis, il y avait l'école où je brillais. Alors, je n'ai pas l'impression d'une souffrance, ni dans ma jeunesse, ni dans ma vieillesse. Mais je sais que ça existe.
Mais l'école, Suzy Morgenstern, c'est vrai que vous vous éclatez à l'école. Il faut dire que vous cartonnez, vous adorez ça, vous dites j'allais à l'école comme on va au parc d'attractions, c'est dire un peu l'enthousiasme de la petite fille que vous étiez. Qu'est-ce qui vous plaisait à ce point à l'école?
Mais c'est... Les maîtresses étaient comme des mamans. On avait beaucoup d'activités sportives, beaucoup de théâtre, de chant. C'était un club med, l'école. Mon lycée, je vous dis pas, il y avait un journal quotidien, il y avait un orchestre de symphonique, il y avait un orchestre de jazz, il y avait le chœur, le glee club. C'était juste plein d'activités, beaucoup de choses pour nous fédérer à notre école, on aimait notre école. Et ce qui n'existe pas en France, c'est on va à l'école comme... plutôt comme une punition.
Bon, et vous, c'était vraiment pas votre cas. Effectivement, vous vous voyez absolument radieuse hein, sur la photo de classe qui se trouve au début du livre. Et puis, il y a aussi un autre bonheur pour vous, c'est la lecture. Hein. En classe, vous lisez en cachette. Vous racontez que vous avez même été surprise en train de pleurer en lisant David Copperfield de Dickens. Vous lisez partout, hein, dans le placard à la maison. Et très, très vite, vous vous mettez à écrire et vous rendez un vibrant hommage, Suzy Morgenstern, dans ce livre, au plaisir de l'écriture. Et vous y allez très fort là aussi. Hein. Vous parlez d'un plaisir sensuel, presque sexuel.
Oui, quand je pousse le crayon à travers une feuille de papier, j'ai l'impression de me faire des chatouilles. Et là, dans le studio, je suis devant un clavier et je meurs d'envie de taper.
D'accord, donc vous écrivez plus à la main, vous écrivez plus avec votre studio, mais les touches du clavier vous chatouillent aussi.
Ah oui, j'adore. Je vois un clavier et j'y vais.
Bon.
J'ai transféré tout le plaisir sensuel de l'écriture à la main à l'écriture au clavier et de voir grandir les pages sur l'écran, j'adore.
Et là aussi, on en revient à l'exil d'ailleurs, hein, Suzy Morgenstern. Lire et écrire, écrivez-vous, les deux techniques que j'ai apprises à l'école sont devenues mon exil permanent et constant à partir de 7 ans. Et vous ajoutez, il faut s'abstraire de la vie pour entrer dans la coquille de l'écriture. Il faut renoncer à la vie pour écrire, car l'ingrédient principal, c'est le temps. Est-ce que ça signifie que l'écriture, c'est un sacerdoce ?
Ah oui, je me protège énormément. C'était un arrachement ce matin de venir au studio, un renoncement. Et ça devient un peu pathologique là. Avec l'âge et avec tout ce que je veux accomplir et l'urgence de la chose, je fais rien d'autre.
Ça veut dire que vous passez votre vie soit à écrire, soit à penser à écrire.
Ah oui, toute ma vie. Je lis encore, et puis on a introduit un autre malheur dans ma vie, c'est les séries. Parce que quand j'étais malade et je pouvais pas lire, on m'a branché sur des séries qui sont restées. Et c'est une drogue dure.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good.
Bon, je vais pas vous demander si vous avez reconnu Suzy Morgenstern, forcément.
Oh, je chantais et dansais dans le studio. Et puis, c'était ça, mon lycée. On avait un auditorium, un théâtre. Et chaque matin, on se rassemblait. Et quelqu'un comme Frankie Valli chantait. Ils étaient tous dans mon lycée, qui était 95% italien. Et il y avait plein de jeunes qui sont devenus des vedettes.
Voilà, et vous-même et... d'ailleurs, qui êtes devenue une vedette de la littérature pour enfants, mais que les adultes évidemment peuvent lire aussi. Alors c'est la chanson effectivement que vous entendiez, que vous chantez au lycée à l'époque. Vous étiez la rédactrice en chef du journal du lycée, hein, Suzy Morgenstern. Alors il faut dire qu'à l'époque, vous aviez la réputation d'être un télo de service, hein, puisque vous lisiez, vous aviez de bonnes notes, mais aussi, et vous le racontez, dans le livre, parce que vous étiez juive. Alors, on ne voit pas très bien le rapport entre les deux. Ça vous agaçait un petit peu quand vous dites ça, même beaucoup.
Mais non, on le disait comme une accusation. Ah, vous, les juifs, vous êtes tous intelligents. Ça aussi, c'est l'antisémitisme. Et ça m'est venu comme un pogrom quand ce grand noir m'approchait en disant vous êtes tous intelligents, et moi je nous défendais en cherchant tous les cancres juifs que je trouvais, à commencer par mes sœurs.
Alors vous, votre judéité, vous avez toujours été très fière, hein, Suzy Morgenstern. Et là aussi, vous employez des mots extrêmement forts, hein. Vous dites que vous êtes juive avant tout. Ça veut dire quoi, être juive avant tout?
C'est une identité très forte. C'est une identité forgée par les persécutions, par l'histoire. On peut pas y échapper. Et je lisais, bon, de toute ma vie, sur mon chevet, il y a le journal d'Anne Frank que je prenais pour moi. C'était moi. C'était d'ailleurs une petite fille qui me ressemblait à l'âge où j'ai sorti le livre de la bibliothèque municipale. Elle me ressemblait. Et puis, sur la quatrième de couverture, c'était écrit que Anne Frank est morte en mars 1945. Et moi, je suis née en mars 1945. Alors, c'est un lien de toute la vie. Je me nourrissais de Primo Levi, de tous les gens qui ont écrit sur la Shoah. Je me sentais même, et c'est horrible à dire, privée de Shoah, parce que née en Amérique en 45 après la guerre. Et tout ça, j'ai hérité avec mon mari, Jacques Morgenstern, qui est né en 1939. À Nice, et lui était un enfant caché, son père déporté à Auschwitz. Alors, par lui, j'ai eu vraiment mes lettres de noblesse.
Et c'est en Israël, à l'université hébraïque de Jérusalem, que vous avez rencontré Jacques. Alors, partir en Israël, quand on est une juive américaine comme vous, c'est aussi un exil?
Mais ça m'a surpris. C'était un exil. C'était pas le judaïsme que je connaissais. C'était pas. Je suis essentiellement une juive de la diaspora, et je me complais dans ce judaïsme-là. Je suis une exilée permanente. Et de me trouver en Israël et de trouver que j'étais encore exilée, c'était un choc.
Et cet exil à Jérusalem va changer votre vie, puisque c'est là, effectivement, comme vous le disiez, que vous allez rencontrer celui qui est sans doute l'amour de votre vie, hein, Jacques. Alors vous êtes une femme de lettres. Lui, c'est un homme de chiffres, il est mathématicien. C'est une rencontre qui, a priori, sur le papier comme ça, n'est pas si évidente que cela.
surtout qu'on ne parlait pas la même langue.
En plus.
Ni mathématiquement, ni je ne parlais pas un mot de français. Et c'était pas évident, mais Jacques était plutôt un homme renaissance. Il lisait autant de littérature que de science. Il a lu tous les livres de ma thèse en littérature comparée pour vérifier que je disais pas de bêtises.
Et vous vous êtes compris tout de suite, tous les deux?
Je crois qu'on ne s'est jamais compris dans la mesure où est-ce que les deux êtres humains peuvent se comprendre?
Je ne sais pas, mais vous avez la réponse?
La réponse évidente pour moi, c'est non. Quand mon mari est mort, après 30 ans de vie ensemble, il est mort jeune. Je me suis rendu compte que je le connaissais pas. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Jacques a dit, où j'ai gratté, j'ai fouillé, mais c'était une vraie archéologie de nos 30 ans ensemble. Je pense qu'on se comprenne pas entre nous, même entre amis, entre parents, enfants, entre professeurs, étudiants. On fait pas le travail qu'il faut.
Mais est-ce que la littérature, dans ce contexte, peut aider à comprendre l'autre?
J'espère, oui. Je comprends mes héros des livres mieux que je comprenne mes héros dans la vie.
Et c'est parce que c'est vous qui les créez, vos héros?
Non, les héros que je lis aussi.
Et en tout cas, votre héros, hein, quand vous arrivez à Jérusalem, c'est effectivement ce Jacques que vous rencontrez donc à l'université. Alors, vous n'avez pas de mots assez forts, hein, Suzy Morgenstern, pour exprimer l'amour que vous lui portiez, l'amour et l'admiration aussi. Hein, splendide et magnifique, vous parlez d'un petit dieu, d'un grand prêtre. Jacques était une gloire, ma gloire, écrivez-vous. On a vraiment l'impression que c'était un être supérieur, un être au-dessus de tous les autres. Quoi. C'est peut-être pour ça, justement, que cette communication n'a pas pu se faire de façon égalitaire.
C'était surtout un extraterrestre. J'ai jamais rencontré dans ma vie américaine un homme comme ça. Il était tellement hors de tout ce que je concevais pour moi-même, tout ce que mes parents concevaient pour moi-même aussi. On enseignait tous les deux à l'Université de Nice, à Parc Valrose, qui est un des plus beaux campus de France. Et je restais derrière la porte de sa classe, rien que pour entendre sa voix. Et pendant beaucoup d'années, j'avais rien d'enregistré de sa voix, à part un son dans mon ordinateur qu'il avait enregistré, qui disait « merde, merde et merde ». Et j'écoutais à la longueur des jours ce « merde, merde et merde » avec sa voix.
J'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un d'une jeunesse qui rêvait quand j'avais 18 ans. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur.
Baie des Anges et Dick Rivers en VMDN sur RFI avec Suzy Morgenstern pour son autobiographie intitulée Mes 18 exils aux éditions de l'Iconoclaste. Alors Nice, votre ville d'exil, votre ville d'adoption. Alors je ne sais pas si vous aimez Dick Rivers, Suzy Morgenstern, mais la chanson française, en tout cas, vous l'appréciez.
Pardon ?
Oui, vous aimez la chanson française.
La chanson française ?
Oui.
Ah oui, oui, j'aimais les vieux, Georges Brassens, Jacques Brel, je vis encore dans ce temps-là.
Et c'est pour l'amour de Jacques que vous allez vous installer à Nice, c'est votre 11e exil, vous traversez l'Atlantique avec votre petite fille Lily, vous débarquez au Havre d'abord et ensuite donc à Nice. Alors ça démarre quand même dans une forme de difficulté, hein, parce que vous avez donc un bébé, vous avez 22 ans à ce moment-là, et au départ c'est pas évident de s'adapter.
Mais surtout en étant aveugle et sourde, parce que je parlais pas du tout le français, alors ça c'est dur. D'ailleurs, quand les pieds noirs me racontent les difficultés qu'ils ont eues à s'installer en France, je dis que je vois pas la difficulté puisqu'ils parlaient le français. L'exil de sa langue, pour moi, c'est vraiment difficile.
Alors au début,
de s'efforcer toujours, de se concentrer, d'essayer de piger ce que les gens te disent, c'est dur ça.
Et donc vous avez du mal effectivement au début, beaucoup de mal. Voici comment vous le racontez. On est à la page 192 de votre livre.
Jacques est devenu mon pays natal et je n'avais besoin de rien d'autre, sauf A, pouvoir me garer là où je fais des courses, donc B, être à l'aise pour rouler en voiture. C. Maudire les conducteurs niçois qui conduisent n'importe comment et se garent en double file et n'importe où, le tout dans une incivilité totale. D. Espérer qu'on m'accueille façon « le client est roi » au lieu de cette impression qu'on me rend service en me permettant de dépenser mon argent dans ce magasin. E. Pouvoir disposer de quelques heures entre midi et 16 heures pour des corvées courantes. F. Avoir un téléphone à la maison. G. Rire facilement des mêmes choses. H. Partager les mêmes références. I. Connaître les codes au lieu d'être dans une perplexité permanente. J. Me sentir moins à l'étroit puisque tout est plus petit. K. Voir des mères moins violentes dans ces jardins où elles grondent méchamment leurs enfants. L. Une politesse naturelle à l'opposé de la politesse robotique et froide. M. Pouvoir manger de la comfort food au lieu de ces mauvaises herbes qu'on appelle mesclun et pouvoir acheter un hot dog au bout de la rue. N. Ne pas toujours sembler bizarre aux yeux des autochtones. O. Comprendre ce que les gens me disent. P. Ne pas passer des journées entières à tout haïr. Q. Ne pas pleurer une fois par jour. R. Ne pas tout le temps calculer quelle heure il est dans mon ancien pays. S. Ne pas transformer Celsius en Fahrenheit et mettre en yards. T. Ni calculer le prix de tout en dollars. U. Ne pas me fâcher contre les prix exorbitants. V. Ne pas me demander du matin au soir « qu'est-ce que je fous ici ?» W. Ne pas me languir de ma famille américaine tellement fort que j'en ai mal. X. Ne pas me demander pourquoi les acteurs des séries américaines parlent français. Y. Ne pas être irrité. Z. Ne pas être frustré. Tout un alphabet de petits malheurs.
Comment vous est venue, Suzy Morgenstern, cette idée d'alphabet de petit malheur, pour reprendre votre expression ?
Je suis connue pour mes alphabets. Dans mon livre La Sixième, je fais un alphabet des méchants, avec un alphabet de gros mots qui a fait la joie de beaucoup de générations d'enfants. Mais en écoutant mon alphabet, je me suis dit que je suis tellement meilleure avec la plume qu'avec la parole à voix haute, parce que je suis quelqu'un de très lente. Il me faut le temps pour élaborer. Et alors, je crains que je sois très mauvaise en interview.
Oh, pas du tout, croyez-moi. On vous suit depuis le début et on a très, très envie de continuer. Alors, c'est vrai que quand on regarde dans le détail les 26 points que vous listez, si j'ose dire, à travers cet alphabet, on se dit qu'il y a des choses très légères, pleines d'humour, et il y a des choses un petit peu plus dures à avouer, un petit peu plus dures à accepter, un petit peu plus dures à vivre quand vous arrivez effectivement à Nice. Est-ce que vous étiez dans cet état d'esprit, on va dire, d'ascenseur, quoi, avec des moments très hauts et des moments très bas?
J'étais plutôt inconsciente. Je crois que j'étais inconsciente. J'allais en France, je savais rien, ni la langue, ni la culture, ni rien, ni la géographie. Je savais rien. Je savais pas où c'était. J'ai suivi. Et puis la conscience s'est branchée petit à petit. Et je me suis effectivement dit qu'est-ce que je me suis faite. Je n'ai pas regretté parce que j'étais avec Jacques et j'étais avec mon bébé.
Et comme vous êtes quelqu'un décidément de foncièrement positif, le texte se poursuit par un second alphabet, cette fois-ci à la page 193.
La France a aussi de bons points. Elle dispose de A, une belle langue si on sait la parler. B, une splendide littérature si on sait la lire. C, une gastronomie exceptionnelle si on a le bon sens de l'apprécier. D, 246 variétés de fromage ou plus si on a le genre de palais pour aimer le fromage. E, des bouteilles de vin, rouge, rosé, blanc. Chaque bouteille nous surprend par son goût différent, mais il faut aimer le vin. F, des grandes marques de luxe. Si on a des sous. G, des boutiques adorables, qui n'ont pas la taille convenant aux vraies femmes. H, des musées, des châteaux, des églises, des monuments qui datent d'avant la naissance des États-Unis. I, des trains à grande vitesse. J, une vaste diversité de paysages, si on a une voiture. K, des magasins fermés le dimanche. On ne vit pas que pour travailler. L, la sécurité sociale. Qui pourrait le croire? M, l'éducation, même les universités sont gratuites. On n'a pas besoin d'économiser dès la naissance de ses enfants. N, le goûter, un mot qui n'existe qu'en français. O, un gouvernement, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, plutôt fiable et responsable. P, Nice, si belle, avec plage et montagne pas loin. Q, des villages médiévaux autour à visiter. R, des Français qui ne sont pas aussi froids que l'on pourrait croire. Si on sourit, si on est gentil, ils vous le rendent. S, une équipe de foot championne du monde. T, un cinéma qui est un art. U, des bisous sur 2 ou 3 ou même 4 joues. V, des râleurs et manifestants qui gardent vivante la démocratie. W, l'exception culturelle, salon du livre, festival, événement abordable pour tout le monde. X, la chanson française. Y, la BD tellement estimée. Z, l'élégance et l'esthétique de vie. Vous voyez, je n'étais pas si mal lotie.
Voilà, et on s'habitue à tout, malgré les difficultés du début, et on goûte le côté positif de ce nouveau pays qui vous a accueilli, Suzy Morgenstern. Aujourd'hui, vous vous sentez bien à Nice, vous vous sentez bien en France. Est-ce que vous vous sentez pleinement française?
Mais c'est un peu difficile de se sentir pleinement française quand on parle le français comme une vache espagnole. On ne peut pas être intégré quand on a un accent. Et je m'en veux de ne pas avoir fait le travail qu'il aurait fallu pour me débarrasser de cet accent, c'est-à-dire voir un orthophoniste, parce que c'est toute une musculation et je suis trop paresseuse pour dire « U » à chaque fois. Où je suis une exilée permanente et même si je me sens très bien en France et j'aime furieusement la France, je peux pas être considérée comme française, bien que j'ai voté hier. Les gens m'ont regardé un peu bizarrement. Dès que j'ouvre la bouche, dès que je dis bonjour, on me dit passez de bonnes vacances, madame. Ce sont de longues vacances puisque je suis là depuis 54 ans.
Alors, Suzy Morgenstern, on l'a entendu hein, dans cet alphabet, dans cet abécédaire. Vous rendez hommage à la sécurité sociale, ce qui est assez fréquent quand on est américain quand on est en France de rendre hommage comme ça à la possibilité de se faire soigner gratuitement. C'est un vrai luxe, la sécurité sociale, pour vous?
Oh, c'est pas seulement un luxe, c'est une gratitude énorme. J'ai jamais vu un médecin avant de venir en France, à part d'accoucher juste avant de venir. Si on avait une otite, une angine, ma mère disait ça passera, parce que c'était juste trop cher pour aller voir un médecin. Et j'étais très, très malade. J'étais soignée au merveilleux hôpital La Cassagne à Nice. Et je suis éternellement reconnaissante quand je dis à mes amis américains les soins qu'on a eus. Ils pensent que c'est de la science-fiction ou fantasy. C'est pas croyable.
Oui, et c'est vrai que vous avez vous-même et les vôtres payé un lourd tribut à la maladie. Vous racontez hein, les souffrances et le dépérissement de votre mari Jacques. Vous le racontez de façon à la fois très directe et très pudique. Vous racontez aussi votre chimiothérapie à vous, la perte des cheveux, la perte de poids qui va avec. Vous faites tout de suite une pirouette d'ailleurs. Hein. Vous écrivez que perdre des kilos, c'était le rêve de votre vie. Ça a été compliqué à écrire ces passages-là, Suzy Morgenstern?
Les joies de l'écriture, c'est les petites révélations qui viennent avec l'écriture. C'est tout d'un coup, on se rend compte. Moi, j'étais une patiente modèle. J'étais toujours souriante, heureuse d'être à l'hôpital. J'adorais mon hôpital. Et mon mari râlait tout le temps. Tout le temps. C'était un très mauvais malade. Moi, j'étais une bonne malade. Mais en l'écrivant, je me suis dit, j'aurais dû râler plus.
Parce que vous êtes une râleuse dans la vie, Suzy Morgenstern. Le point d'exclamation dont on parlait au début de l'émission était plutôt un point d'exclamation admiratif, émerveillé. Il peut aussi, de temps en temps, être un point d'exclamation rageur, colérique?
Très peu, sauf éventuellement en voiture. Mais très, très peu. Et c'est peut-être ça qui m'a amené vers le cancer. Peut-être on devrait râler plus. Les Français sont extrêmement râleurs. Et c'est bien.
Et donc, vous auriez aimé être...
Mais moi, je râle quand les Français me râlent parce que je pense qu'on est tellement bien lotis ici.
Oui, vous râlez aussi quand même un petit peu dans le livre hein, contre l'éducation nationale française, contre l'université aussi. Parce qu'autant vous avez adoré vos années d'écolière aux États-Unis, autant quand vous êtes passé de l'autre côté de la barrière et que vous êtes mise à enseigner, là, par contre, ça vous a beaucoup moins plu. Qu'est-ce que vous reprochez au système éducatif français?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est le domaine où je râle le plus. Je vais rencontrer, je crois, la semaine prochaine, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. J'aimerais qu'il m'écoute un peu. J'ai beaucoup à lui dire. Il y a beaucoup de problèmes. Quand même, il faut dire que les enfants, même dans les pires quartiers, comme Toulouse-le-Mirail, comme le Neuf-Toits, où je vais beaucoup et souvent, savent lire et écrire. Très bien, très bien. Ils lisent des gros livres. Et donc, en même temps, il y a des résultats. Mais je pense quand même qu'on peut avoir les résultats avec beaucoup plus de douceur et de rêve. Quand je vais dans les écoles, la première chose qui me frappe, c'est les maîtresses qui crient. Quand on va dans les écoles en Suisse, où les classes sont deux fois plus petites, on n'entend pas les cris comme ça. Alors, j'ai un livre qui sort qui s'appelle Maître Joker, qui suit mon livre d'idéal de maître qui s'appelle Joker. Je raconte mon école idéale après avoir raconté mon maître idéal.
Merci beaucoup, Suzy Burgenstern, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé vos 18 exils et votre joie de vivre. Je précise d'ailleurs que dans le livre, on apprend que vous avez décidé de votre épitaphe. Hein. Mère, grand-mère, écrivain, elle a fait de grands efforts dans la limite du possible à aimer la vie, avec là encore un point d'exclamation. Merci infiniment, Suzy Burgenstern.
Merci beaucoup pour votre bonne lecture du livre.
Mes exils, Suzy Morgenstern, aux éditions de l'Iconoclaste. Merci encore.
Merci.
Direction Montmartre à présent, quartier historique de Paris, habituellement très prisé des touristes. Figurez-vous qu'une chanteuse soprano y fait régulièrement résonner sa voix, car si les opéras, les salles de concert, de spectacle, les cafés et j'en passe ont été longtemps fermés à Paris, les rues, elles, sont restées pendant tout le confinement ouvertes à toutes et à tous. Montmartre revit, Montmartre enchanté, c'est le nom de cette déambulation artistique que Fanny Blechner a suivie pour nous.
Le rendez-vous est donné place des Abbesses. Nous sommes une dizaine, immédiatement plongés dans le bain avec l'hymne de la République de Montmartre que nous tentons d'entonner. Une voix se distingue bien sûr, celle de Veronica Antonelli, chanteuse soprano vêtue d'une longue robe rouge et de grandes ailes de tissu dans la même teinte. Elle est à l'initiative de ces visites chantées et nous invite à poursuivre de l'autre côté de la place.
L'église Saint-Jean, première église en béton armé. Et quand elle a été construite, au départ, elle était tellement moderne, d'ailleurs, regardez autour de vous, elle choque un petit peu hein, dans son architecture, que par deux fois, les travaux ont été arrêtés. Et finalement, donc elle a 100 ans, hein, cette église. Et elle a une très belle acoustique. Et l'acoustique vient du fait que, à la fois, c'est du béton armé, donc ça renvoie le son, mais c'est surtout qu'il y a du parquet au sol, sur toute la superficie, et de grandes hauteurs.
Nous pénétrons donc dans les lieux et fermons les yeux. Cette visite est davantage sensorielle qu'historique. Elle permet de découvrir les bâtiments de Montmartre par leur acoustique.
En 2005, je suis allée chanter à Syracuse. Et dans le Duomo, j'ai commencé à chanter et ma voix, elle a joué avec les acoustiques et ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Sans le savoir, j'avais atteint la note de résonance du site et donc c'est une note qui permet à tout le site de vibrer. Comme ça, au départ, c'est une bêtise. Je me suis dit, pour m'amuser, mais tiens, est-ce que j'arriverai à reconnaître un monument à son acoustique ?
Sans transition, direction le mur des Je t'aime pour un extrait de Carmen qui ravit tous les cœurs alentours. Solange est l'une des participantes.
Surtout en ce moment où on a besoin de gaieté, de bonne humeur hein, dans ce temps-là. Donc voir Montmartre et écouter une belle voix en même temps et un concert, c'est formidable, ça fait du bien.
passage devant la maison de Dalida, l'épicerie d'Amélie Poulain, un ancien abreuvoir ou encore anecdote sur les moulins, la visite est aussi rythmée par les poèmes de Bernard Beaufrère, garde champêtre de la République de Montmartre et amoureux des mots.
J'adore faire connaître les poèmes de ces années superbes, des années 50 et même d'avant. Des poèmes d'Aragon, des choses comme ça, c'est l'époque, enfin même antérieure. Où il fréquentait le lapin agile. Il est passé tout le monde le lapin agile en bas.
Mais c'est de Bernard Dimet dont il nous dit quelques vers évoquant un autre café.
Les heures que j'ai passées à me finir aux Herpilles, avec les filles de rien que j'appelais monsieur, qui faisaient vibrer pour moi leurs miches et leurs fossiles, pour m'envoyer le soir un peu de poudre aux yeux.
C'était des heures. Au moment, cafés comme salles de concert sont encore fermées, alors ces spectacles de rue trouvent vraiment leur sens.
C'est un acte, effectivement, de résistance culturelle, hein, pour dire, voilà, on continue, on est là, et on donne du bonheur aux gens. Vous avez vu, les gens, ils s'arrêtent, ils regardent, ils écoutent. Moi, je pressens que les spectacles qui vont être réouverts seront en majorité à l'extérieur.
De quoi patienter, en tout cas, en attendant le retour à une vie culturelle moins bridée.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. Des visites de Montmartre sous cette forme sont en tout cas régulièrement organisées. Pour réserver, vous pouvez aller sur le site latoucheenchantée.festique.net. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Laurent Chalumeau pour son roman Vice, publié chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Autour